Et cette parole est venue dans le monde. Et l'auteur dit d'elle qu'elle est la véritable lumière. Et qu'un autre Jean, Jean-Baptiste, est son témoin. Cette lumière, certains l'ont accueillie, mais d'autres l'ont rejetée. Et pour ceux qui l'ont reçue, qui ont cru en elle, ils sont devenus enfants de Dieu, grâce à celui qui est la lumière. Et voici la suite du texte. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et permettez-moi d'ajouter la lecture d'un autre texte un peu plus long dans l'Ancien Testament. Et je vous laisserai trouver le rapport entre les deux textes. D'accord ? Dans Exode chapitre 33, à partir du verset 15, Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse « Je ferai aussi ce que tu me demandes là. » parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire !» Verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage. » car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Exode chapitre 34, à partir du verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants. » jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Avez-vous vu un rapport entre les deux textes ? Dans un instant, je donnerai la réponse. Mais avant cela, je vous invite à prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous venons de lire cette proclamation que tu fais de toi-même, toi qui es plein de grâce et de compassion, toi qui es lent à la colère, riche en bonté et en vérité, nous te louons, Seigneur. Oui, nous avons déjà commencé à te louer durant ce culte et nous voulons encore te louer durant ce moment où nous écoutons ta parole. Veuille ouvrir notre intelligence pour que nous soyons réceptifs à ce que tu veux nous dire cet après-midi. À ce que nous puissions recevoir ta parole, parce que c'est toi qui nous parles en personne. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Vous voulez savoir comment je suis passé de Jean 1 à Exode 33-34 ? Regardez le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Et puis, je me suis dit, Cela me fait penser à un verset où Dieu dit quelque chose de semblable. Dans Exode chapitre 33, verset 20, Dieu dit quoi ? « Tu ne pourras pas voir mon visage, dit-il à Moïse, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et de là, je me suis rendu compte, en comparant les deux textes, qu'il y avait des parallèles. Comme si Jean avait composé les versets 14 à 18 de son prologue avec, en arrière-plan, le texte de l'Exode. Et j'ai trouvé confirmation aussi du côté des commentateurs. Mais ce que je veux mettre en avant ici, ce n'est pas ma capacité d'observation. Mais c'est de vous dire combien la connaissance de l'Ancien Testament importe pour lire le Nouveau Testament. Parce que autrement, nous passons à côté de ce qui en fait la richesse. Nous avons tellement besoin de creuser davantage l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament et en voir toute sa richesse. Et quand nous lisons la fin du prologue affiché ici, quand nous lisons la fin du prologue de Jean, ce que Jean écrit au sujet de Jésus, trois réactions que je résume sous forme d'exclamations peuvent survenir. Trois réactions, trois exclamations. La première, quelle gloire ! La deuxième, quelle grâce ! Et enfin, quelle révélation ! Quelle gloire ! Quelle grâce ! Quelle révélation ! Trois réactions à la lecture de ce texte. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas rester de marbre devant un tel texte, ni d'ailleurs devant aucun texte des Écritures. D'où ces réactions ? Quelle gloire ! Quelle grâce ! Quelle révélation ! Commençons par « Quelle gloire !» Et je relis le verset 14. « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jusque-là, Jean avait juste dit que la parole ou la véritable lumière est venue dans le monde, mais il n'a pas évoqué de quelle manière. Et ici, Jean écrit que cette parole, dont il parle depuis le début, a été faite chair, est devenue homme, habitant parmi les hommes. La parole qui existe depuis toujours, qui était avec Dieu et qui était Dieu, verset 1, fait irruption dans notre monde en devenant homme. Comment Dieu peut-il devenir homme ? Voilà le mystère de l'incarnation. Et pour Jean, cela ne fait aucun doute. Celui qu'il a côtoyé de près durant 3 ans est Dieu devenu homme. Et Jean poursuit au verset 14. Elle, la parole, a habité parmi nous. Le verbe qui est employé ici pourrait être traduit par « camper ». La parole a campé parmi nous. D'autres osent dire « la parole a tabernaclé parmi nous », a posé sa tente, son tabernacle parmi nous. Voilà une première allusion à l'Exode, que nous ne percevons pas toujours par les traductions, mais je vous le dis. Une allusion au tabernacle qui était le lieu où Dieu pouvait être présent au milieu de son peuple. Et à l'époque de Jean, il y avait le temple qui a remplacé le tabernacle. Mais l'apôtre a rencontré celui qui est le véritable temple, celui qui a dressé son tabernacle parmi les hommes, Jésus. Dieu s'est approché des hommes d'une manière inédite à ce moment de l'histoire, il y a 2000 ans. Il n'avait jamais fait cela avant, mais là, il l'a fait. Il est devenu homme. Dieu le Fils est devenu homme. Rendez-vous compte que celui qui a participé à toute la création, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, a accepté d'assumer la condition limitée d'un être humain. Et pour autant, cela ne signifie pas que la parole cesse d'être Dieu pour devenir homme. Cela ne signifie pas qu'au moment où la parole est devenue homme, elle a cessé d'être Dieu. Et voyez avec quel soin Jean précise que cet homme qui était son maître n'est autre que Dieu le Fils, celui qui a toujours existé. Regardez le verset 14, il est question du Fils unique venu du Père. Le verset 15, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste qui atteste que cet homme, Jésus, qui vient après lui, avait une existence bien avant lui. Non pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Jean-Baptiste dit, « Celui qui vient après moi m'a en fait précédé, car il était avant moi. » Et cela rejoint les premiers versets du prologue, qui soulignent la préexistence de Jésus. Et puis le verset 18, qui nous dit aussi, « Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. » Jean ne laisse aucune ambiguïté. Du début à la fin de son prologue, Jésus est entièrement Dieu et entièrement homme. Si nous fêtons Noël année après année, c'est pour pouvoir nous souvenir de l'incarnation. Pour pouvoir nous souvenir que la parole a été faite chair. Le Dieu éternel a, comme diraient certains, endossé notre humanité. Le Dieu infini a accepté la condition finie d'un homme. Et nous savons qu'il l'a fait pour que notre salut soit possible, pour que nos péchés puissent être pardonnés grâce à sa mort. Et la semaine prochaine, nous parlerons plus amplement de l'incarnation, car il est tellement important que nous comprenions à quel sacrifice Dieu le Fils éternel a consenti pour nous. Nous avons tellement besoin de saisir encore mieux ce que signifie le fait que la parole a été faite chair. Mais nous en parlerons la semaine prochaine. Pourtant, malgré cet abaissement, Jean, l'auteur de notre texte, témoigne qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu en cet homme. Après avoir dit que celui qui est la parole a dressé sa tente au milieu des hommes, Jean l'affirme au verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et c'est là que nous pouvons repenser au livre de l'Exode. Parce que pour un juif de l'époque, le tabernacle et la gloire de Dieu sont liés. L'un fait penser à l'autre. Et je mentionnerai juste ce qui se passe à la fin du livre de l'Exode, une fois que le tabernacle a été installé. Je lis dans Exode chapitre 40, versets 34 à 35. Écoutez bien. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dans le texte de Jean, celui qui est la tente de la rencontre, celui qui est le temple par excellence, a été accessible. Les hommes ont pu le côtoyer là où Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente de la rencontre. Et la gloire de celui qui est la parole a été visible pour ceux qui ont cru en lui. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa personne divine dans tout son éclat, dans toute sa sainteté, dans toute sa bonté, dans tout ce qu'il est, eh bien les disciples de Jésus ont vu cela en Jésus, ont vu cette gloire divine en lui. Et la suite de l'évangile de Jean, eh bien, mentionne à plusieurs reprises le thème de la gloire, de cette manifestation qui n'est propre qu'à Dieu. Et je vous donne simplement quelques exemples pour que nous puissions être sensibles à ce thème de la gloire. Le premier exemple, si vous vous en souvenez, quand Jésus a changé l'eau en vin lors d'un mariage à Cana, Jean écrit au chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Deuxième exemple, avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce que Jésus dit à sa sœur Marthe? Eh bien, il lui dit ceci dans Jean chapitre 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc juste avant de ressusciter Lazare, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et nous voyons déjà dans ces exemples que par les signes miraculeux que Jésus opère, sa gloire divine était déjà visible. Mais je donne un troisième exemple. Devant la perspective de sa mort prochaine, Jésus dit à deux de ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean chapitre 12, versets 23 et 24. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Et ensuite, Jésus parle de sa mort. Quand Jean écrit son évangile, c'est après avoir compris tout cela. Et ainsi, il peut affirmer sans trembler, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il peut le dire après avoir compris tout cela. Moïse n'a pas eu ce privilège. Quand il a demandé à l'Éternel de voir sa gloire, bien sûr, Dieu a répondu favorablement, mais en prenant des précautions. Tout à l'heure, nous l'avons lu. En gros, Dieu a dit à Moïse, « Tu pourras me voir, mais juste de dos. Autrement, tu risquerais de mourir. » Donc Moïse n'a pas eu ce privilège. Mais là, Jean est en train de dire, « Nous avons contemplé sa gloire. » La gloire magnifique du Fils de Dieu. Et je le disais plus tôt, quelle gloire! Quelle gloire nous pouvons avoir? Quelle gloire, pardon, nous pouvons aussi contempler en la personne de Jésus? Certes, nous ne contemplons pas cette gloire de la même manière que Jean et les autres témoins oculaires qui ont vécu avec lui. Mais nous n'en sommes pas moins privilégiés. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 5 et 6, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mes amis, considérons que lorsque nous lisons la Bible, et particulièrement le témoignage du Nouveau Testament, nous sommes en face du vrai Jésus. Nous voyons sa gloire dans les Écritures. Et Dieu, qui fait briller sa lumière dans notre cœur, nous permet de reconnaître la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans son livre intitulé « Connaître Dieu », James Packer souligne cette expérience. La connaissance de Jésus reste encore aujourd'hui une relation personnelle de disciple à maître, aussi réelle que celle qui unissait les 12 à Jésus quand il était sur la terre. Le Jésus qui traverse les évangiles marche aujourd'hui avec les chrétiens. Et le connaître, c'est aujourd'hui comme autrefois marcher avec lui. Nous ne sommes pas moins privilégiés que les disciples qui ont connu Jésus en personne. Le Jésus que nous voyons par exemple dans la série que j'ai déjà mentionnée de Chosen n'est qu'un acteur. Mais nous, nous connaissons le véritable Jésus. Le véritable Jésus. Et au fur et à mesure que nous le connaissons, nous marchons avec lui jour après jour. Jean n'a pas écrit ce texte pour que nous puissions envier son expérience avec le Seigneur. Mais pour qu'à notre tour, nous fassions nous-mêmes cette expérience de voir, spirituellement bien sûr, de voir la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Oui, nous aussi, nous pouvons faire cette expérience de voir la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ dans les Écritures. Et dans ce que je viens d'évoquer, nous n'avons encore rien dit d'une expression qui est aussi au verset 14. Parce que Jean dit de cette parole, et d'autres pensent que c'est de la gloire, qu'elle est pleine de grâce et de vérité. Eh bien justement, nous y venons. Quelle grâce ! Deuxième exclamation, quelle grâce ! Tout à l'heure, nous avons chanté un chant que j'aime beaucoup, Minuit chrétien. Et dans ce chant-là, si vous vous souvenez un petit peu des paroles, à un moment donné, vous avez l'expression « l'homme-Dieu ». L'homme-Dieu qui descendit jusqu'à nous, quelque chose comme ça. L'homme-Dieu. Mais il faudrait plutôt dire, selon Henri Blocher et d'autres, « Dieu-homme ». Parce que c'est dans ce sens-là que Dieu s'est incarné. Non pas l'homme-Dieu, mais Dieu-homme. Et peut-être qu'il faudrait juste inverser cela dans les paroles du chant qu'on a chanté. Dieu-homme. Ce Dieu-homme qui a pour nom Jésus est décrit ici plein de grâce et de vérité. Et sans doute que la référence nous échappe lorsque nous lisons cette expression « grâce et vérité ». Parce que, en fait, Jean fait très probablement allusion à Exode 34, que j'ai lu tout à l'heure. Lorsque l'Éternel montre sa gloire en proclamant son nom. Et je relis ce passage. Dans Exode 34, lorsque l'Éternel parle de lui-même et montre sa gloire, voici ce qu'il dit, verset 6. « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Il garde son amour jusqu'à la mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Dieu se présente ici à Moïse comme riche en bonté et en vérité. Une autre traduction propose riche en amour et en fidélité. Et en fait, Jean, dans le prologue de son évangile, eh bien, traduit cela par « grâce et vérité ». Il s'agit vraisemblablement de la même expression. Quand Dieu dit à Moïse qu'il est riche en bonté et en vérité, eh bien, ici, Jean dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. Jean reconnaît en Jésus les mêmes attributs qui sont ceux du Dieu de l'Ancien Testament. Grâce et vérité. Dieu est un Dieu de grâce, cela nous est révélé dans l'Ancien Testament. Et Jésus est plein de grâce, cela nous est dit dans le Nouveau Testament. La grâce et la vérité sont propres à Dieu. Lorsque nous imitons Dieu, nous pouvons aussi faire preuve de grâce envers quelqu'un. Notamment lorsque nous pardonnons à une personne qui ne le mérite pas. De même, nous sommes capables de dire la vérité ou d'être vrai. Mais dans tous les cas, ce sera toujours à un degré infiniment moindre par rapport à Dieu lui-même. La grâce et la vérité sont ses attributs à lui. Dieu seul est plein de grâce et de vérité. Et pourtant, vous voyez ce que Jean écrit au verset 16 et 17. « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et ici, ce qui fait l'objet de différentes interprétations, c'est l'expression « grâce pour grâce ». Dans d'autres traductions, vous trouverez une grâce après l'autre. Mais il semble, selon le professeur Donald Carson, que la compréhension la plus satisfaisante par rapport au contexte est rendue par cette traduction que nous avons ici. Grâce pour grâce. Comprenez une grâce à la place d'une autre grâce. De quoi Jean parle-t-il ici? Eh bien, la loi que Moïse a transmise de la part de l'Éternel était une grâce. L'alliance que Dieu a conclue avec son peuple était une grâce. Israël n'a rien fait pour mériter cela. Dieu a librement choisi Israël et lui a communiqué sa loi par Moïse. Et cela devait permettre au peuple d'Israël de connaître Dieu, de connaître son caractère et de savoir ce qu'il attendait de lui. En outre, c'est par la loi aussi que le peuple savait ce qu'il devait faire en cas de péché, en cas de transgression de la loi, notamment offrir des sacrifices pour que les péchés soient pardonnés. Et cela devait durer un temps jusqu'à la venue de Jésus, par qui la grâce et la vérité sont venues. Voilà cette autre grâce qui prend la place de la grâce précédente. Grâce pour grâce. Ce qui ne veut pas dire que la loi de Dieu ne compte plus. Mais celui qui est venu accomplir parfaitement cette loi est désormais là. Et cette grâce que nous avons chantée tout à l'heure, quelle grâce incomparable, cette grâce, cette immense bonté va être manifestée tout particulièrement à la croix. Par le sacrifice de Jésus, Dieu montre qu'il est toujours disposé à pardonner la faute, la révolte et le péché. Et vous vous souvenez qu'au sujet de sa mort, Jésus a dit qu'il allait être glorifié. Et dans le texte de l'Exode, quand Dieu manifeste sa gloire à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'il est un Dieu riche en bonté, en grâce et vérité. Et cette même gloire, nous la retrouvons chez Jésus, plein de grâce et de vérité, et manifestée pleinement, et en particulier à la croix. C'est pourquoi Jean peut écrire : nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Et quand Dieu exprime sa grâce, quand Dieu fait grâce, c'est un don entier. Dieu ne donne pas un peu de sa grâce, il la donne pleinement. En venant parmi les hommes, Christ a pleinement manifesté la grâce divine qui nous est indispensable pour nous présenter devant Dieu. Quelle grâce, mes amis ! Nous pouvons nous exclamer, quelle grâce ! Vis-tu de cette grâce ? J'aimerais te poser cette question cet après-midi. Vis-tu de cette grâce, jour après jour ? Et là non plus, nous ne sommes pas moins privilégiés que Jean et les croyants de son temps. En envoyant son Fils pour nous sauver du péché et de ses conséquences, Dieu nous permet de saisir en quoi consiste la grâce. De comprendre que bien que pécheur et ne méritant rien si ce n'est la mort qui est le salaire du péché, nous avons grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice sur la croix, grâce à sa résurrection, droit à la vie éternelle. Oui, la grâce de Dieu qui resplendit dans le message de l'Évangile, c'est qu'au lieu de te punir toi, il punit son Fils qui meurt à ta place pour tes péchés. Et James Packer le dit avec ses propres mots, « Mais comment ne pas être conduit aussi à l'adoration et à l'amour, à la pensée que pour une raison qui m'échappe, Dieu veut faire de moi son ami et que pour accomplir son dessein, il a donné son Fils pour qu'il meure à ma place. » Prenons-nous conscience de nouveau encore cet après-midi que pour que Dieu fasse de moi son ami, pour accomplir ce dessein, il a donné son Fils pour qu'il meure à ma place. En cette période de Noël, en nous souvenant de la venue au monde de Jésus, nous célébrons la grâce. Tout comme Dieu a jugé bon de donner sa loi par Moïse, il a jugé bon aussi d'envoyer son Fils, qui manifeste pleinement la grâce et la vérité. Et remarquez une fois de plus le verbe que nous avons au verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est l'initiative de Dieu. C'est son plan pour le salut de quiconque croit. La grâce et la vérité sont venues. Et à Noël, nous avons raison de célébrer cela. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour en arriver à la dernière exclamation? Parce que nous avons dit quelle gloire en lisant ce prologue. Quelle grâce! Mais comme si cela ne suffisait pas, Jean conclut son prologue en nous faisant prendre conscience que Jésus est la révélation de Dieu par excellence. Quelle révélation! Regardez le verset 18, parce que c'est ce verset-là qui va nous intéresser. Mais juste avant, si nous avions le temps maintenant, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'aimerais juste savoir comment Dieu s'est révélé à chaque chrétien, chaque chrétienne dans cette salle. Qu'est-ce qui a déclenché le déclic chez vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez cru en Dieu? Alors bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Mais avec quelle révélation? Qu'est-ce qui a été la révélation pour vous? Et je vous propose d'examiner votre expérience à la lumière de ce que Jean écrit au verset 18. Qu'est-ce que Jean écrit au verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. En affirmant que personne n'a jamais vu Dieu, Jean s'inscrit bien dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Et comme nous l'avons déjà dit, Dieu l'a dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Notre péché ne nous autorise pas à voir Dieu. Mais tout comme Dieu a bien voulu, dans sa grâce, se révéler à Moïse, de même Dieu a bien voulu se dévoiler par son Fils. Son Fils qui le connaît parfaitement. Son Fils qui vit avec lui une intimité qui n'est pas à notre portée. Personne n'est aussi proche du Père que le Fils. Et en venant parmi les hommes, Dieu le Fils unique a fait connaître le Père. Et c'est de cette manière-là que nous comprenons mieux peut-être les déclarations de Jésus, notamment au chapitre 14. Lorsque Jésus dit à Thomas, notamment en répondant à sa question, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et quelques versets plus loin, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pour connaître Dieu, nous n'avons pas d'autre chemin que Jésus. Pour connaître vraiment Dieu,